Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, MLF ou Mouvement de Libération des Femmes, chronique d'une lutte féministe. Depuis plusieurs mois avec l'affaire Weinstein, via les réseaux sociaux ou par des prises de position publiques, la question des violences et du harcèlement contre les femmes s'est invitée au cœur de l'actualité dans de nombreux pays. Une fois encore, il a fallu qu'un scandale éclate pour que la parole se libère, pour qu'une réalité sociale souvent oubliée ressurgisse. Au cœur de ce combat, le MLF tient une place à part. Il symbolise, sans la résumer, la deuxième vague de la lutte des femmes pour leurs droits, les années mouvement de la décennie 70. Alors, quelle est leur histoire? Qui sont les femmes qui ont participé à cette mobilisation? Qu'est-ce qui fait la particularité de leur style? Quel rôle ont-elles joué pour imposer des thèmes jusqu'ici tabous et permettre des avancées historiques? Enfin, pourquoi la mémoire de cette lutte est-elle aujourd'hui traversée de controverses? Autant de questions sur lesquelles nous reviendrons en seconde partie d'émission avec notre invitée, Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des Femmes et ancienne porte-parole du mouvement Osez le Féminisme. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonhomme et Colin Bord, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Paris, mercredi 26 août 1970. Elle s'appelle Anne, Cathy, Christiane, Emmanuel, Frédéric, Janine, Margaret, Monique ou Christine. Elles sont à peine une dizaine ce jour-là à s'être donné rendez-vous. Le petit groupe arrive en voiture au niveau de la place de l'Étoile. Parmi ces femmes d'âge divers, entre 20 et 50 ans, on croise surtout des anonymes, mais on reconnaît quelques personnalités comme l'écrivaine Christiane Rochefort. Alors qu'elles avancent vers l'Arc de Triomphe, qui trône au milieu de la place, elles se retrouvent rapidement entourées de plusieurs journalistes. Et pour cause. Quelques jours plus tôt, elles les ont prévenues. Dans le Paris désert de la fin des congés, elles préparent une action en hommage et en soutien de leur sœur gréviste américaine, qui célèbre par milliers, elle, le 50e anniversaire de l'obtention du droit de vote des femmes aux États-Unis. Pour comprendre le coup préparé par la petite dizaine de manifestantes ici en France, il suffit de lire les slogans écrits sur les banderoles qu'elles commencent à déplier. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Sur une autre, on découvre cet autre slogan particulièrement bien trouvé. Un homme sur deux est une femme. Solennelles, elles se tiennent en rang derrière l'une d'entre elles qui porte une gerbe de fleurs dans les bras. Un hommage tout en ironie et en éclat pour marquer les esprits. Une démarche et une marche qui reprennent la geste des cérémonies officielles à la manière des anciens combattants, la tenue militaire en moins. Mais alors qu'elles n'ont pas fait 20 mètres en direction de l'Arc de Triomphe, les forces de l'ordre interviennent. Deux mois plus tôt, Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur du gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, sous la présidence de Georges Pompidou, a fait adopter la loi dite « anti-casseur », symbole du retour à l'ordre, deux ans après les événements de mai 68. Photographes et journalistes ont à peine le temps de saisir les images de l'action et d'interroger les manifestantes du jour sur leurs revendications que le groupe est interpellé et emmené au poste. S'il fallait trouver un acte de naissance, au moins médiatique, pour le mouvement de libération des femmes, ce mercredi 26 août 1970 fait figure d'événements privilégiés, tant cette action contient, déjà sur le fond et dans le style, ce qui fera son succès. À l'heure des balbutiements, pour la première fois, la presse nomme, encore mal, ce mouvement qui pointe.
Plus inattendu, la petite manifestation organisée à Paris par le mouvement de libération de la femme française.
Oui, à l'Arc de Triomphe, un groupe de femmes, dont l'écrivain Christiane Rochefort, auteur du Repos du guerrier, a voulu déposer une gerbe de fleurs en hommage à la femme du soldat inconnu. Nous voulons, disaient les militantes, nous solidariser avec les plus inconnues, les plus obscures, les plus humiliées des femmes. La police a dispersé les manifestations et emmené plusieurs militantes au poste pour vérification d'identité.
Le mouvement de libération de la femme française. Les journalistes reprennent l'expression du mouvement des Women's Lib américaines. Pourquoi pas? Répondent les premières concernées. Mais ce sera des femmes, et non pas de la femme. Car si mouvement il y a, il les concerne toutes dans leur diversité de parcours, de situation ou de conscience. On peut donc aussi se passer du « française ». Et si le mouvement de libération des femmes, bientôt siglé MLF, naît symboliquement dans la foulée de cette action d'éclat, il trouve ses racines quelques années plus tôt. Comme souvent, tout commence par une rencontre de femmes entre elles, de groupes entre eux, et puis de tous face aux événements de l'histoire. D'abord, en 1967, il y a deux étudiantes, Anne Zelensky et Jacqueline Feldman. Elles se rencontrent au séminaire de la sociologue féministe André Michel et fondent, cette année-là, le FMA, acronyme de Féminin Masculin Avenir. Pour elles, les groupes existants, comme le mouvement démocratique féminin, sont trop éloignés des enjeux de l'époque. C'est l'ordre patriarcal et ses bases, l'oppression, le mariage, la sexualité qu'il faut combattre. Quelques mois plus tard, en 1968, le petit groupe se retrouve plongé au cœur des événements de mai. Stimulé par la révolte étudiante dans la Sorbonne occupée, le FMA organise le seul meeting sur les femmes et le groupe alors se radicalise. Comme l'indique sa nouvelle appellation, désormais le FMA sera féministe, marxiste et action. Mais au lendemain de ce mois de mai historique, le réveil pour ces jeunes femmes est double. Si l'insurrection confirme la critique des institutions, invente de nouvelles formes de lutte et consacre la force des collectifs, elle s'est une fois encore écrite au masculin. À aucun moment, non, les femmes et leurs revendications n'ont réussi à se faire entendre. Un constat que dresse un autre groupe, les Petites Marguerites, dès l'automne 1968, formées autour de l'écrivain Monique Wittig ou de la professeure Antoinette Fouque. Ces groupes, pour le moment épars, poussés par les mouvements de gauche révolutionnaire du moment, animés par des femmes aux parcours différents, réunis autour de revendications diverses, tous arrivent à la même conclusion. Leur combat doit reposer sur un principe radical, fort, nécessaire, la non-mixité, comme l'explique l'une d'entre elles.
En un premier temps, il est drôlement important de se regrouper entre femmes et de voir pourquoi on n'a pas pu ni faire ni dire. Alors, c'est en ça, je crois qu'effectivement, un regroupement uniquement entre femmes permet ce travail. Et ensuite, de retourner dans un monde mixte et exprimer ce qu'on a trouvé en réfléchissant entre femmes.
Donc, de toute façon, le fait d'être entre femmes représente une force qui nous permet la reconnaissance à l'existence qu'on nous a toujours niée. Oui. C'est une chose que les hommes admettent difficilement, de savoir qu'il y a un endroit où il y a des femmes et qu'eux ne peuvent pas y entrer, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt l'inverse qui se passait. Ils sont obligés d'avoir une réaction par rapport à ça. Ils se sentent agressés, ils sont obligés de comprendre, ils sont obligés de voir qu'on existe quelque part, d'une façon autonome.
Tout s'accélère au printemps 1970. Le 21 mai, à l'Université expérimentale de Vincennes, se tient la première réunion publique non mixte de femmes. Le même mois, l'Idiot International publie un texte signé des sœurs Wittig intitulé « Combat pour la libération de la femme », où elles dénoncent le sexisme, terme emprunté à leurs consœurs américaines. En juillet, la revue Partisan consacre un numéro spécial écrit uniquement par des femmes et intitulé « La libération des femmes, année zéro ». Des thèmes communs traversent ces différentes publications. La conscience d'un état de servitude de la femme, le sentiment d'être un peuple dans un peuple, la libération sexuelle revendiquée. À la lecture des unes de journaux, les groupes isolés constatent, malgré leurs différences, des idées communes. La plupart de ces femmes ont lu un livre, paru 20 ans plus tôt qu'on se passait discrètement, de main à main, et où il était écrit pour la première fois des choses ressenties depuis si longtemps. Pour beaucoup, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, car il s'agit bien de cet ouvrage, est une révélation. Avec cette idée principale, aussi puissante que limpide, on ne naît pas femme, on le devient. Si ces jeunes femmes connaissent l'histoire des luttes féministes passées, longues et sinueuses pour leur droit à s'instruire, travailler ou voter, elles savent aussi que ça ne suffit pas. C'est désormais dans le champ culturel, dans les mentalités, que le changement doit avoir lieu.
Les femmes avec nous ! Les femmes avec nous ! Les femmes avec nous !
Alors, il faut marquer les esprits par des actions visibles dans la rue. Elles étaient à peine une dizaine à l'Arc de Triomphe. Elles sont déjà 40, deux mois plus tard, pour s'enchaîner aux grilles de la prison des femmes de la Petite Roquette, à Paris. De nouveau, la force des slogans. Prostituées, voleuses, ménagères, filles mères, homosexuelles, hétérosexuelles, militantes, nous sommes toutes sœurs. Et puis, le 20 novembre 1970, elles sont encore plus nombreuses pour leur troisième grande action publique. À Versailles, le magazine Elle organise des états généraux de la femme. Le MLF s'y invite et perturbe cette manifestation qui se veut moderne et féministe, comme l'explique très maladroitement le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas dans son discours d'ouverture.
Le travail en compagnie des femmes est un travail qui se déroule dans une atmosphère particulièrement efficace, sans parler de l'agrément. Mais il ne faut surtout pas confondre égalité et identité. Comment imaginer que l'on puisse envisager la carrière féminine, dans quelque domaine que ce soit, à quelque échelon que ce soit, comme identique à une carrière masculine? Ne serait-ce que parce que c'est vous qui avez la charge de la maternité.
Pour les femmes du MLF, voici une fois encore, sous couvert de progressisme, les clichés qui perdurent. Les premières actions publiques du MLF sont toujours à destination des femmes. C'est vers elles, pour elles, qu'elles luttent. Après ces premiers happenings, le mouvement est véritablement lancé. Partout à travers la France, de petits groupes naissent. Qu'on les rattache ou non au MLF, peu importe, le mouvement se veut horizontal, sans hiérarchie, sans porte-parole, sans représentant. Il n'y a pas de programme, pas de militants, non, juste des femmes qui se réunissent entre elles.
Nous n'avions plus honte, nous leur faisons honte. Voilà le basculement, la transition.
Dès l'automne 1970, tous les jeudis de 6 à 8 heures, les Beaux-Arts de Paris accueillent les assemblées générales du MLF où affluent bientôt des centaines de participantes. Certaines, d'abord réticentes à l'idée d'exclure les hommes, comprennent rapidement l'importance d'une décision si radicale. En leur absence, en effet, la parole est plus libre. On témoigne, on raconte des choses qui n'auraient jamais été dites en présence masculine. Ces assemblées générales sont à l'image du mouvement. Une ambiance survoltée où les différentes tendances s'affrontent dans l'ivresse d'une parole libérée. D'un côté, il y a la tendance marxiste pour qui l'abolition du système capitaliste permettra la fin des inégalités hommes-femmes. De l'autre, la tendance psychanalyste et politique pour qui l'affirmation de l'identité féminine est primordiale. Ou encore, la tendance révolutionnaire pour qui la lutte contre le patriarcat doit être la priorité absolue. Après des années de reflux, la plupart de ces groupes reprennent alors contre le féminisme. Cette idée tombée en désuétude dans les années 50 et 60. Alors, on la repolitise. On lui applique de nouvelles formes de lutte, avec provocation et humour, que l'on retrouve dans les différentes publications du MLF. La plus célèbre, Le Torchon Brûle, journal à diffusion menstruelle, bien trouvé là encore, écrit, imprimé, vendu par les femmes elles-mêmes. Porté par un élan commun, c'est surtout autour d'un combat que le MLF se structure. Un combat sur lequel la comédienne Catherine Deneuve est interrogée.
Alors justement, vous avez pu prendre position récemment dans un manifeste qui concernait plus ou moins la libération de la femme.
Très précisément.
Très précisément même.
C'est le seul et le premier manifeste que j'ai jamais signé, parce que c'est vrai, je suis pour la liberté de la femme, dans ce point précis sur le problème de l'avortement, oui.
Est-ce que vous croyez qu'en 71, en France, la femme est ou non libérée?
Je crois que c'est un problème très personnel et qui concerne chaque femme en particulier. Je crois qu'à des choses, à des lignes générales sur des problèmes comme celui de l'avortement, je crois à une ligne de conduite générale. Sur le reste, je crois que c'est une affaire de cas particulier, comme je vous l'ai dit il y a deux minutes.
Quelle est donc cette tribune signée par l'actrice? Depuis plusieurs mois déjà, s'est constitué au sein du MLF un groupe avortement. Le mouvement a fait de la libération et de la réappropriation du corps de la femme le fer de lance de son combat. Il apparaît donc essentiel de concentrer les premiers temps de la lutte à ce sujet. Et à commencer par ce constat. Plus d'1 million de Françaises avortent chaque année illégalement et de 250 à 300 femmes meurent de cette opération pratiquée dans la clandestinité. Depuis les années 50, le mouvement du planning familial, puis la loi de Wirth, votée en 1967, ont permis l'autorisation de la contraception. Mais sur l'avortement, rien. Pour les femmes du MLF, il faut absolument mettre en avant ce sujet, en faire un thème d'actualité. Le groupe avortement du MLF rédige donc un manifeste pour réclamer l'avortement libre et gratuit. Participantes à ce groupe, Anne Zelensky et Christine Delphi cherchent une tribune pour le publier. Elle rencontre alors Nicole Muchnik, journaliste au Nouvel Obs et proche du MLF. Ensemble, elles imaginent une stratégie. publier la tribune dans le magazine et surtout la faire signer par des célébrités auxquelles le pouvoir ne pourra pas s'attaquer. Pourtant, en assemblée, l'idée ne convainc pas. Faire participer des personnalités, c'est rompre avec la volonté d'anonymat du mouvement. En face, on défend le projet au contraire, car c'est une manière forte de parler de l'avortement. Eh bien, c'est cette tendance qui l'emporte. Alors, on commence à faire jouer son réseau. Ainsi, dans le manifeste publié le 5 avril 1971, Jeanne Moreau, Bulogier, Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve se mêlent aux inconnus pour une liste finale de 343 femmes qui affirment publiquement avoir avorté. Malgré les réticences, l'effet escompté sans précédent. D'un coup, l'avortement s'impose dans le débat et en une des médias. On s'en moque, comme Charlie Hebdo qui rebaptise la tribune d'une question qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement. Une attaque à l'image du traitement du MLF par les journalistes depuis le départ. Il faut dire, sans les excuser pour autant, que les médias sont perturbés par ce mouvement sans leader, ni programme, non mixte, par ces femmes proches des mouvances gauchistes et pourtant détachées des organisations habituelles, capables d'actions d'éclat, provocantes ou ironiques, ou les deux. On les traite avec condescendance, voire par l'insulte, hystérique, lesbienne, mal baisée. Et puis, on a du mal à saisir ce qu'elles veulent, à vrai dire. Le progrès prend du temps, enfin tout de même, la loi avance, et quand on compare leur situation à celle de leurs ancêtres, on se demande pourquoi ces femmes font tant de bruit. Qu'à cela ne tienne, le MLF poursuit sa route. Le 20 novembre 1971, 2000 de ses militantes se rassemblent dans les rues de Paris pour la première grande manifestation du mouvement.
C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le Mouvement de Libération de la Femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne. Et pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Un seul incident durant ce défilé pour montrer leur opposition au lien du mariage, 300 manifestantes se sont détachées du cortège en passant devant l'église Saint-Ambroise et ont pénétré dans l'église où avait lieu un mariage.
Au milieu des chants et des slogans, les symboles du mouvement se consolident, toujours inventives. Les deux mains levées, par exemple, réunies entre pouce et index, dessinant un sexe féminin contre le point levé, phallique et donc masculin, voilà une image qui frappe les esprits. Il aura donc fallu un an pour que le MLF s'impose dans le paysage politique et social de l'après-mai 68 et pour que le féminisme renaisse de ses cendres. Et ce n'est pas fini. Bientôt, le temps des victoires viendra confirmer la nécessité du combat mené par ces femmes.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Party.
Un autre procès commence ce matin. Son cadre, le tribunal pour enfants de Bobigny. Le nom de l'inculpé, Marie-Claire. Sa faute, s'être fait avorter. L'affaire Marie-Claire, c'est une affaire bien banale. Marie-Claire a 17 ans maintenant. Il y a 2 ans, elle rencontre un garçon. Quelques mois plus tard, elle est enceinte. Marie-Claire n'a bien sûr pas de travail. Elle ne peut élever son enfant. Sa mère est veuve et ne touche qu'un salaire bien petit pour entretenir ses 3 enfants. Alors on en parle à quelques amis, on en discute et on trouve la solution. Ce sera l'avortement, je vous le disais, une affaire bien banale. Pourtant, aujourd'hui, Marie-Claire est devant le tribunal pour enfants de Bobigny. Elle fera partie vraisemblablement ce soir des 500 ou 600 femmes condamnées annuellement en France pour le même motif. 500 ou 600 condamnations pour 1 million d'avortements par an. C'est peut-être trop peu, mais c'est peut-être aussi trop.
Contrairement à la provocation volontairement ironique du journaliste qui dénonce la banalisation de la situation en France en cette année 1972, eh bien le procès de Bobigny ne sera pas une énième démonstration de l'injustice. Non. Pendant 2 mois, Gisèle Halimi, l'avocate des accusés, transforme ce procès en tribune politique. Soutenue à l'extérieur par des militants du MLF, la pression médiatique exercée sur le tribunal arrive à ses fins. Les 2 femmes, la mère et la fille, sont en effet relaxées. Une décision en forme d'aveu, la justice n'a pas condamné l'avortement. Pour toutes les femmes du MLF, il faut se servir de cette décision historique pour maintenir et renforcer le combat. Dans la foulée du procès, c'est au tour de 331 médecins de signer un manifeste où ils affirment avoir aidé des femmes à avorter. Des organisations d'extrême-gauche et des femmes du MLF fondent alors le MLAC, Mouvement pour la liberté d'avortement et de la contraception. Organisation informelle, le MLF se structure alors en groupe officiel pour défendre une cause en particulier. Pendant ce temps, du côté des pouvoirs et des institutions, les premiers effets du mouvement se font sentir. Arrivé à l'Élysée en 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing entend bien montrer sa modernité affichée sur ce terrain-là aussi. Il crée un secrétariat à la condition féminine et enchaîne des décrets. Mixité pour tous, les concours de la fonction publique, interdiction d'offres d'emploi sexistes, pénalisation du licenciement en fonction du sexe ou de la situation familiale. Et puis finalement, le 26 novembre 1974, Simone Veil fait voter la loi qui libère l'avortement. Une victoire historique sur laquelle les femmes du MLF ne comptent pas se reposer.
On est enceinte, on aurait voulu se faire avorter. Pourquoi pas ici?
Pas ici, le professeur ne fait que les avortements thérapeutiques.
Mais pourquoi il ne le veut pas? Je comprends pas, puisqu'il y a une loi qui est passée, qu'est-ce qu'elles vont faire les femmes en France?
Que vous alliez dans les établissements où ils le font.
Vous savez où on peut aller?
Je ne sais pas, je ne les connais pas. Il faudrait que vous adressiez au planning familial.
Le planning familial nous a dit de venir dans les hôpitaux, puisque maintenant c'était légal. Et qu'en plus, professeur Jacob, tout le monde a fait des articles donnant le feu vert.
Alors ceux qui le donnent le feu vert, bon, ben, ils acceptent de le faire, mais ici, le professeur ne le veut pas.
Pendant les mois qui suivent l'adoption de la loi, les militants du MLF sont là pour appuyer son application, dénoncer les services hospitaliers où l'opération est refusée, critiquer le manque de moyens mis en œuvre pour appliquer la loi. On les retrouve aussi du côté des ouvrières en grève chez Lip, par exemple, une manière d'élargir le champ social de leur combat. Surtout, les femmes du mouvement se méfient des risques de récupération de leur combat. Si l'année 1975 est consacrée comme année de la femme, les militantes reprennent les méthodes qui ont fait leur succès. On les voit à Berne, en Suisse, intervenir pendant le congrès de l'année de la femme, prendre la parole et organiser un anti-congrès face à ce qu'elles estiment être une nouvelle manière de prolonger les clichés de genre. Enfin et surtout, elles s'attaquent à de nouveaux combats, au premier rang desquels le viol, qui, comme le montre cet échange entre une victime et un commentateur, doit être profondément débattu.
Les femmes, elles ne veulent plus se taire. Les femmes, elles veulent crier qu'elles en ont marre d'être violées, elles en ont marre d'être battues, elles en ont marre d'être sifflées dans la rue, elles en ont marre d'être plottées et ainsi de suite. Et c'est ça aussi qui est important. La première idée qu'on a quand on a été violée, c'est de se taire, de se cacher. On a l'impression d'avoir tellement été niée, d'avoir été écrasée, de plus exister du tout qu'on a... C'est vrai qu'on n'a pas du tout une attitude offensive.
Je crois qu'il ne faut pas être d'un pessimisme absolu et noir à ce sujet. On peut même se demander si un certain nombre de femmes ne portent pas plainte parce qu'elles ont été tranquillement remises sur les rails d'une vie sexuelle normale, assouvissante, affectueuse et dans de bonnes conditions.
Une fois encore, sur ce sujet, le MLF contribue à modifier la perception de la société. Jusque-là, le viol que la loi ne considère pas comme un crime et qui, lorsqu'il est jugé, débouche sur des peines particulièrement clémentes, était souvent vécu comme une honte par de nombreuses femmes. Eh bien, les militants du MLF, par leur tribune et leur action, renversent la perspective. Parce qu'elles en font un objet de débat sur la place publique, parce qu'elles en dénoncent la violence réelle et symbolique, elles rendent visible l'oppression. S'opère alors un basculement dans la projection. Désormais, la faute n'est plus sur les femmes, qui l'auraient bien cherché, argument odieux, mais qu'on a si souvent entendu, mais sur les violeurs, coupables de ce qui doit être désormais considéré comme un crime. De nouveau, la lutte s'enracine dans le concret. On voit apparaître des centres d'accueil pour femmes battues, qui au fil du temps ouvrent leurs portes à de plus en plus de victimes. Dans le même temps, après 1975, le mouvement s'oriente vers la mise en place d'outils de diffusion plus vastes. Si le torchon brûle s'arrête en 1973, il est remplacé par de nombreux journaux, revues ou magazines dirigés par des femmes, écrits par des femmes, à destination des femmes. Des librairies voient le jour, ainsi que des maisons d'édition. La plus importante, sans doute, est celle d'Antoinette Fouque, du groupe Psychanalyse et Politique, avec son édition des femmes. Antoinette Fouque, qui dès 1976 tient à marquer ses distances avec certains aspects du MLF.
Moi, je crois que je n'ai jamais été féministe, que je ne le suis jamais devenue, parce que le devenir, ça aurait été effectivement entrer dans quelque chose. Je veux dire, tout d'un coup, changer ma manière de vivre pour entrer dans quelque chose qui existait. J'ai toujours su qu'il y avait le féminisme. Je n'ai jamais pu adhérer à une idéologie féministe. Et il m'est apparu, entre autres, très vite, qu'une des choses qui venait aussi m'opprimer, ça pouvait bien être une certaine idéologie féministe, un certain nombre de modèles que des femmes qui étaient féministes depuis longtemps, qui avaient prévu, ou qui avaient imaginé, ou qui avaient même été à l'initiative de cette espèce de rupture qui était le mouvement des femmes, que cette idéologie féministe, donc, pouvait, sur certains points, me brimer aussi et m'opprimer. En tant que femme qui essayait de dire ces points de lutte, ces moments de contradiction, ces oppressions.
En germe déjà les signes de la rupture, car si le combat réunit, les luttes divisent au fil des mois. Ce qui a fait le succès du MLF, cette réunion informelle de groupes épars et divergents, se retourne bientôt contre lui. Au cœur de la scission, un débat entre les universalistes et les différentialistes. Les premières s'inscrivent dans les pas de Simone de Beauvoir, quand les secondes en critiquent l'héritage. Ces dernières, emmenées par Antoinette Fouque, voient le féminisme comme un machisme au féminin. Selon elle, Beauvoir nie la différence fondamentale entre les deux sexes et l'identité féminine propre qu'il faut sauvegarder et surtout affirmer. Ces divisions éclatent au grand jour le 6 octobre 1979. Pourtant, ce jour-là, tout avait bien commencé avec une immense manifestation du MLF dans les rues des grandes villes de France, comme ici à Paris.
Des femmes dans la rue, des femmes qui chantent, qui hurlent et qui scandent leur droit à l'autodétermination, leur droit à disposer de leur corps. Comme en 73, la bataille de l'avortement a fait descendre les femmes dans la rue. Mais cette fois-ci, elles étaient plus de 50 000 à défiler de Denfert-Rochereau au Champ de Mars. Une marée humaine de femmes de tous âges, de tous milieux, souvent accompagnées de leurs maris et enfants. Elles sont aussi venues de Toulouse, de Tarbes, de Besançon ou de Quimperlé.
Pourquoi vous venez de Quimperlé ?
C'est parce que ça fait 5 ans qu'on lutte à Quimperlé pour avoir un centre d'IVG et on se cogne sans arrêt à des blocages.
Ah, je suis tout à fait solidaire. Je trouve qu'il est urgent d'agir pour que la loi soit revotée et même élargie éventuellement.
Ces femmes qui réclament l'avortement libre et gratuit se veulent de tous les horizons et se démarquent de toutes les organisations politiques.
Mais ce même jour, dans le plus grand secret, trois femmes, Antoinette Fouque, Marie-Claude Grumbach et Sylvaine Boissonnat, déposent à la préfecture de police une association, le Mouvement de Libération des Femmes, MLF. Un nom ensuite inscrit comme marque à l'Institut de la Propriété Industrielle et Commerciale. Le mouvement, qui n'appartenait à personne, se retrouve donc propriété privée à l'encontre de ses méthodes originelles. Alors la critique est unanime, les éditions des femmes d'Antoinette Fouque sont boycottées et la division actée. Une division qui va gêner pendant longtemps l'héritage et la mémoire de ce mouvement. Antoinette Fouque n'hésitant pas à écrire une nouvelle version de cette histoire, le MLF serait né en 1968 au cours d'une réunion chez elle, le jour de son anniversaire. Évidemment, ces controverses n'aideront pas un mouvement qui, comme ses contemporains révolutionnaires à l'extrême gauche, subit un reflux à la fin des années 70 et au début des années 80. Le féminisme est repris par les institutions, le pouvoir et les partis politiques. Le temps du combat paritaire et légal s'ouvre quand l'action et la provocation s'effacent. Reste que par sa radicalité, les thèmes qu'il a mis en lumière, la parole qu'il a libérée, les victoires qu'il a remportées, le MLF est un moment crucial de l'histoire des femmes. Il a rappelé que ce combat d'un genre concerne l'ensemble de la société, ce que l'actualité de ces derniers mois vient de confirmer.
We'll be right back.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le combat du MLF avec notre invitée Anne-Cécile Maillefer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la Fondation des femmes et ancienne porte-parole du mouvement Oser le féminisme. Alors, pour écrire l'histoire du féminisme, on utilise souvent l'image de la vague, vous savez, pour montrer des périodes fortes du combat, puis son reflux. Alors, le MLF s'inscrirait donc dans la deuxième vague. Avant elle, il y aurait donc la première, c'est logique, celle des suffragettes, au début du siècle. Siècle dernier, et puis il y aurait la troisième vague dans les années 2000 à laquelle on rattache souvent, à tort ou à raison, Oser le féminisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce tempo de l'histoire du féminisme ?
Je suis pas entièrement d'accord avec l'idée d'une vague, parce qu'une vague, ça veut dire qu'à un moment donné, elle va s'échouer, puis une autre va la remplacer. Or, en fait, ces vagues, elles continuent d'exister. La seconde vague, qui est effectivement incarnée en France par le MLF, en réalité, continue d'exister. Et moi, je me sens très proche de la seconde vague, par exemple. La troisième vague va apporter de nouveaux sujets. C'est pas vraiment des vagues, en fait, ça va plutôt être un enrichissement progressif des sujets et des thématiques, avec d'ailleurs des divergences aussi nouvelles qui vont exister. Aujourd'hui, il y a des sujets de débat qui n'existaient pas forcément au moment de la seconde vague. En tout cas, voilà, c'est pas aussi clair qu'on aimerait le présenter. Alors, c'est vrai que ça rentre bien dans les livres d'histoire, hein, vague 1, vague 2, vague 3. Mais en fait, la réalité est beaucoup plus compliquée que ça.
Comme souvent. Je parlais de vague quand même parce qu'il y a l'idée du flux et du reflux. Dans les années 50 et 60, le féminisme était quasi tombé en désuétude. C'était pas une préoccupation.
Alors, il y a eu des moments de
Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a ce creux, là, comme ça ?
Il y a eu des moments de creux, puis des moments où les choses sont revenues fortement. Il y a des moments de progrès aussi, il y a des mouvements, effectivement, de retour en arrière, de backlash, comme disent les Américaines. Ça fait partie, dans les mouvements sociaux, c'est général, ça n'appartient pas qu'au féminisme. Il y a eu d'ailleurs aussi, à la fin des années 90, début des années 2000, un moment où c'était un peu plus creux, et puis là, aujourd'hui, on voit que les choses reprennent. À quoi c'est dû, je pourrais pas trop vous donner de raisons très claires. En tout cas, je pense que...
C'est un constat, on est d'accord sur le constat.
C'est un constat, mais c'est un peu, voilà, on fait trois pas en avant et puis il y a deux pas en arrière, on en a gagné un. Et puis heureusement, ça revient et heureusement, de nouvelles générations reprennent le flambeau, vont adapter les choses, vont les mettre plus avec des thématiques qui vont parler plus fortement dans l'actualité. Et donc ça doit être ça sûrement qui fait que le féminisme revient, heureusement, toujours plus fortement.
La condition et la défense de la condition de la femme passe par les artistes aussi. Je pense à John Lennon en 71 et sa chanson « Woman is the nigger of the world » où il dénonçait justement la condition presque d'esclave, parfois des femmes, y compris dans nos sociétés modernes et démocratiques. Et puis bien sûr, il y a les livres, les écrits. Simone de Beauvoir, « Le deuxième sexe » en 1949, qui fait le lien entre le MLF des années 70 et des décennies précédentes. On va l'écouter, Simone de Beauvoir, sur la question du sexisme.
C'est un mot que nous avons forgé par analogie en somme avec le racisme. Le racisme, c'est la doctrine qui pense justifier d'établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur race. Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Nous avons commencé à parler de sexisme à propos des insultes que les hommes déversent volontiers contre les femmes. Il y a une loi qui, je crois, date de 45. Et qui interdit de traiter un homme de sale juif ou de sale bico. Et si on insulte un arabe, un juif de cette manière-là, on peut être traîné devant les tribunaux. Mais qu'on dise à une bonne femme, ou qu'on dise d'une bonne femme salope comme toutes les bonnes femmes, ou hystérique comme toutes les bonnes femmes, il n'y a pas de recours. Et nous avons créé justement à quelques-unes du MLF une ligue du droit des femmes où nous essayons de lutter contre toutes les formes du sexisme.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Sexisme, décortiquons ce mot.
Oui.
Et ce qu'il veut nous dire.
Alors, ce que pointe Simone de Beauvoir est évidemment tout à fait juste. J'aimerais juste compléter son propos en rappelant qu'en fait, depuis le 4 août 2014, donc c'est tout neuf, le sexisme, en fait, les discriminations en raison du sexe sont venues compléter l'arsenal répressif des différents types de discrimination. Donc, l'insulte à raison du sexe, ça y est, on peut maintenant le pénaliser. Mais c'est tout récent, c'est 2014. Donc, on voit bien qu'en fait, alors que d'autres schémas de domination et donc de discriminations ont été compris, ont été décortiqués, et on a cherché à lutter contre cela. Sur le sexisme, c'est en fait venu extrêmement tard. Alors c'est sûrement, d'ailleurs comme le disait Françoise Héritier, parce que le sexisme en fait était le système de domination des hommes sur les femmes et la matrice de tous les autres systèmes de domination qu'il est partout. Peut-être qu'on a plus de mal à le voir et donc c'est plus compliqué de le combattre parce qu'il est tellement partout que finalement c'est même plus difficile à l'appréhender. Donc c'est pour ça sûrement que c'est arrivé un peu plus tard. Mais je crois qu'on commence à réussir à comprendre qu'effectivement il n'y a pas une nature, comme disait Simone de Beauvoir, qui vraiment a cherché à démontrer que naturaliser les femmes, faire en sorte de penser qu'il y a des compétences, qu'il y a une nature particulière parce qu'on est né femme, donc parce qu'on a un sexe féminin, on aurait des qualités et des compétences particulières vis-à-vis des hommes. L'ériger en nature, en système naturel, ça c'est vraiment une idée qu'elle a réussi à décortiquer et qui continue aujourd'hui à vraiment influer toute la pensée féministe et qui nous aide aujourd'hui à lutter contre le sexisme, donc ce système de discrimination.
Donc Simone de Beauvoir, figure tutélaire du mouvement des femmes, pour les femmes, c'est clair. Mais c'est pas, est-ce qu'il y a des adeptes de Simone de Beauvoir et des opposantes dans le même combat ?
Oui, alors il y a effectivement plusieurs mouvements. On va avoir des femmes qui sont plus différentialistes, des femmes qui sont plus essentialistes, c'est-à-dire qui vont dire qu'il y a une essence féminine particulière, que cette essence-là, il faut la revaloriser, il faut lui redonner toute sa place, et il faut surtout pas chercher à montrer qu'il y aurait que finalement nous sommes des êtres humains ou nous sommes des hommes, les femmes sont des hommes comme les autres, donc des humains comme les autres, hein, c'est dans ce sens-là qu'on le pense. Et ces mouvements essentialistes continuent d'exister. D'ailleurs, ils ont parfois des analyses assez justes sur un certain nombre de sujets. Moi, après, je me revendique pas du tout de cette branche-là, parce que pour moi, je pense que si nous avons effectivement un sexe biologique différent des hommes, nous les femmes, tout ce qui a été accolé aux femmes par la suite, tout ce schéma de toutes ces idées sur qu'est-ce que savent faire les femmes mieux que les hommes ou qu'est-ce que savent faire les femmes moins que les hommes d'ailleurs, parce que c'est plutôt ça la plupart du temps,
c'est
une valeur différente qui est attribuée au féminin et au masculin, c'est vraiment ça qui est la source de la discrimination des femmes par les hommes.
Alors, les femmes du MLF, on le voit dans les années 70, sont traitées avec condescendance, voire insulte par les médias de l'époque. Et puis alors, de façon maladroite et en même temps touchante de la part de Jacques Chaban-Delmas, parce que, Chaban, on l'a entendu tout à l'heure quand il dit « je suis content d'être là ». Bon, c'est charmant, hein. C'est exactement ce qu'il fallait pas dire. Et pourtant, cet homme-là était un moderne, hein. C'était pas la droite conservatrice, errance. Il était moderne, comme l'était d'ailleurs Chaban. Qu'est-ce qui fait que même des hommes modernes comme eux, qui veulent faire bien, finalement, tombent dans le panneau comme ça?
Parce que le sexisme, il est tellement enraciné partout qu'en fait, si on n'a pas bien réfléchi au sujet, effectivement, on peut se mettre à dire des énormités. On ne naît pas féministe. En fait, on le devient au fur et à mesure de réfléchir, de déconstruire un certain nombre de choses. Le MLF a été extrêmement caricaturé, hein, dans son histoire, mais ces caricatures-là, elles ont toujours accompagné toutes les différentes phases d'émancipation des femmes. C'est l'antiféminisme, en fait, qui est souvent véhiculé par beaucoup d'hommes et des femmes aussi, qui refusent de voir les choses évoluer, qui refusent de voir qu'on puisse accorder une place plus importante aux femmes dans l'humanité, en fait.
On peut dire aussi que c'était un homme de son temps, ça compte aussi.
Oui, alors avec ça, là-dessus, j'ai du vrai et du pas vrai.
Je savais que j'allais sur des plates-bandes brûlantes en disant cela.
Non, mais il y a du vrai et du pas vrai, parce qu'en réalité, quand on regarde même dans l'histoire des idées, Poulain de la Barre, il y a quand même eu des hommes et des femmes, mais des hommes aussi en particulier, depuis plusieurs siècles, très féministes,
mais
qui ont parlé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, dire... Alors, certes, c'est dans son époque, mais c'est pas parce qu'on est d'une époque qu'on est obligé de raconter... de perpétuer les clichés de cette époque-là. Il y a eu des hommes très féministes à la Renaissance, il y a eu Condorcet, il y a eu d'autres hommes.
Condorcet, ben oui. Évidemment.
Et donc, en réalité, c'est une excuse un peu facile.
Bien sûr.
Mais en tout cas, c'est vrai que, disons qu'on peut plus facilement excuser ce genre de paroles et ce genre de comportement à cette époque-là qu'on ne le ferait aujourd'hui, même si, avec toutes les nuances que je viens d'y apporter.
Alors, autre grand sujet de débat, comme un fleuve qui passerait là-haut au milieu des deux rives du même combat, le combat pour la condition de la femme, c'est soit on le fait avec la complicité des hommes et de certains hommes, soit on reste entre femmes, c'est la non-mixité. Alors ça, c'est vraiment un vrai choix cornélien, je trouve, d'ailleurs.
Alors la non-mixité, ça fait partie des choses très spécifiques de la seconde vague du MLF, puisque ni avant ni après, on est réellement dans une revendication aussi forte de la non-mixité. D'ailleurs, la non-mixité, pour moi, ça fait extrêmement écho à ce qu'on peut entendre aujourd'hui par rapport à d'autres mouvements de lutte contre des discriminations. La non-mixité, on le voit aujourd'hui avec les réunions non-mixtes de mouvements antiracistes, par exemple. En réalité, pour moi, je pense que c'est essentiel d'avoir à certains moments, pour les groupes qui sont discriminés, qui sont dominés, d'avoir des moments en fait où les personnes qui font partie de ce groupe-là peuvent se rassembler entre elles, en l'occurrence, se voir, se regarder, voir qu'en fait elles partagent un certain nombre de préoccupations, un certain nombre de colères, et qu'en fait elles n'est pas ce qu'on voit souvent dans toutes les réunions féministes à laquelle moi je vais où il y a des hommes, on va passer un certain nombre de temps à expliquer aux hommes qu'est-ce qu'on ressent, alors qu'en fait quand on est entre femmes et que finalement par exemple le harcèlement de rue c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on peut tout à fait partager, aucune femme ne va questionner la réalité du harcèlement de rue, mais vous mettez un homme dans la salle et il va vous dire « Ah bon, mais vous êtes sûr ?»
Ouais.
Bah oui, on est sûr. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est important de pouvoir, mais d'ailleurs, comme c'est dit dans votre propos préliminaire, être entre soi pour pouvoir voir quelles sont la réalité de l'oppression, quelles sont les priorités qu'on souhaite formuler. Et puis ensuite, ce qui est obligatoire, par contre, c'est bien sûr de retourner vers le monde, de retourner vers la mixité, parce que la société, ce sont des hommes et des femmes. La société, l'humanité, c'est des hommes et des femmes. Et donc, en fait, on doit évidemment combattre ensemble par la suite, faire progresser les choses et transformer non seulement la manière dont les femmes se voient elles-mêmes et luttent, mais aussi faire en sorte d'embarquer avec nous des hommes, parce qu'on ne pourra pas changer la société toute seule.
Bien. Alors, que pensez-vous maintenant de Françoise Héritier, anthropologue et féministe décédée récemment ? C'est un modèle, c'est...
Oui, absolument. C'est comme d'ailleurs mes aînés du MLF. Pour moi, j'ai une immense admiration pour elle. Et c'est vrai que Françoise Héritier, elle a apporté des concepts et des explications anthropologiques extrêmement importantes qui permettent en fait de nourrir notre combat aujourd'hui. La valence différentielle des sexes parmi les différentes choses qu'elle a pu apporter, mais le fait de bien rappeler, ou en tout cas c'est son analyse, mais moi je pense que je suis en total accord avec elle, le fait de rappeler qu'à la base d'où ça vient la domination masculine, parce qu'il faut trouver une explication, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas l'inverse ou pourquoi c'est pas autre chose, d'où ça vient la domination masculine. Le fait de se rappeler qu'en fait, les femmes ont ce pouvoir qui a été vu par les hommes comme un pouvoir absolument magique, le pouvoir de donner la vie, le pouvoir d'enfanter d'ailleurs même des petits hommes. C'est-à-dire ce sont les femmes qui fabriquent des petits hommes. Alors ça, c'est merveilleux. Et donc les femmes engendrent du même et du différent. Et ce pouvoir-là, à un moment donné, les hommes se sont rendus compte que c'était qu'en fait, il fallait qu'ils aient la main mise sur ces femmes, sur leur corps et sur leur sexualité, parce que sans cela, ils ne pouvaient pas se reproduire tout seuls, et que le produit qu'ils mettaient à l'intérieur des femmes engendrait des êtres humains, donc il fallait qu'ils suivent vraiment tout ça. Et donc le fait de pouvoir, de se rappeler qu'en fait il y a à la base une domination des hommes sur les femmes, parce qu'à la base, la reproduction et le contrôle de la sexualité sont un facteur extrêmement important, clé, et c'est ça que les hommes souhaitent contrôler à la base, ça permet de se rappeler aussi qu'il faut toujours lutter pour le droit à l'IVG, le droit à la contraception, la liberté sexuelle. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des droits en plus, ce sont des droits fondamentaux. C'est vraiment à la base de la domination masculine et c'est ça qu'il faut démonter pour pouvoir aller vers une société de l'égalité.
Vous voulez qu'on écoute Françoise Héritier ?
Oui.
Bien, une archive de 2015, écoutez.
On a fait des progrès gigantesques. Malheureusement, je crains que les jeunes filles, notamment les très jeunes, se prennent au miroir aux alouettes, s'imaginent, parce que les réformes ont eu lieu, que tout est acquis, ce qui n'est pas le cas. Non, les femmes ne sont encore pas, dans notre pays, exactement libres, comme les hommes. demander à une femme de rentrer de nuit à 2h du matin dans un parking, en arrêtant sa voiture dans un parking dans un quartier de mauvaise réputation et qui avait ensuite du chemin à parcourir dans la nuit. Elle appréciera pas beaucoup. Beaucoup de femmes ont toujours peur. La rue, comme on dit, maintenant c'est devenu un leitmotiv. Il faut que les femmes se réapproprient la rue. Mais rien que ça. Vous imaginez l'idée que vous ne pouvez pas vous trouver à votre aise dans un espace public. Totalement à votre aise dans un espace public. Bon, c'est toujours le cas encore aujourd'hui pour les femmes. Alors, qu'est-ce qui reste à changer? C'est la volonté politique, d'abord. Hein, il faut véritablement qu'on se rende compte que c'est du fondamental tout autant que le problème écologique, enfin, les problèmes de la relation homme-femme. C'est ce sur quoi sont basées nos sociétés. Et si on ne le change pas, ça sera l'énorme échec de l'humanité. L'énorme échec de l'humanité.
Bon, j'imagine que vous adhérez à ce propos. Bien.
Absolument.
Alors, oser le féminisme, moi ça m'interpelle. Pourquoi oser le féminisme dont vous aviez été porte-parole? Qu'est-ce que ça veut dire oser le féminisme? Comme si le féminisme était encore transgressif. Il n'est plus transgressif, il est légitime. Pourquoi oser le féminisme? Pourquoi pas soyons?
Parce qu'il est... C'est vrai que c'est étrange de voir à quel point un mouvement qui est aussi humaniste, c'est-à-dire qui proclame tout simplement l'égalité entre les êtres humains, qui est aussi pacifiste d'ailleurs, parce qu'il faut quand même rappeler que le féminisme n'a jamais commis aucun attentat, n'a jamais tué personne, qui a permis autant de progrès dans l'humanité, à autant d'individus, d'êtres humains, de ne plus être pauvres, de ne plus être exploités, de ne plus être dominés, de trouver la liberté, de parler de cette liberté-là, à quel point ce combat absolument humaniste est aussi décrié. Moi, c'est un truc qui toujours m'interpelle. Les résistances face au féminisme m'interpellent énormément. Alors, c'est aussi, bien sûr, parce que justement, il y a la domination masculine qui ne se laisse pas faire. Mais quand même, oui, c'est étrange de savoir qu'un mouvement créé à la fin des années 2000, s'appelle Oser le féminisme, alors que ça fait plus d'une centaine d'années qu'il y a des féministes et qui font des choses incroyables pour la population, qui ont permis à la moitié de la population française d'accéder au droit de vote, au droit à l'avortement, ont changé, enfin c'est fabuleux tout ce qu'on a grâce à elles quand même, et qu'il faille encore se battre pour, quand on se dit féministe, et qu'on entend encore des femmes d'ailleurs, dire « je ne suis pas féministe, mais quand même elles ont raison
». C'est vrai qu'on entend souvent ça. Voilà. Comment vous avez réagi à l'affaire Weinstein et toutes les révélations?
Je trouve qu'il s'est passé quelque chose de très important et je vous avoue que je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que ça allait déclencher une telle vague populaire, parce que de ce que j'entends, on n'est pas uniquement sur des médias qui vont s'agiter, sur quelques personnalités ou quelques associations. En fait, on est bien sur une réflexion vis-à-vis des violences faites aux femmes qui a secoué l'ensemble de la population française, aussi bien des femmes qui, dans leur entreprise, se posent la question pour la première fois de savoir si elles n'ont-elles pas été harcelées. On voit des jeunes filles, on voit des femmes plus âgées, et donc tout à coup le sujet des violences faites aux femmes est devenu un sujet réel, légitime, puisque pour la première fois, on a quand même parlé des violences faites aux femmes sans trop, alors un peu, mais sans trop remettre en question leurs paroles, en condamnant fermement les violences faites aux femmes, alors qu'on a pu entendre par le passé des choses affreuses vis-à-vis des violences faites aux femmes qui rendent les femmes assez coupables de tout ça. Là, on a quand même eu que des discours, enfin la majorité des discours qui ont permis en fait aux femmes de vraiment se sentir libre de parler.
Ce sera le mot de la fin, ce mot d'actualité. Merci infiniment. Anne-Cécile Mailfer, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le MLF, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons ce qu'on appelle le Dark Web.